Hey, grosse nouvelle, il est 5h17. Je vais me servir des infos que Max m'envoie. Puis Max, si je me mêle comme tantôt avec Panarin, t'as juste à appeler sa hot, OK? on dirait que je me fais très peu confiance. Celui qui est supposé d'être le premier choix overall du repêchage 2026, il joue pour Penn State. Il s'appelle Gavin McKenna. Ça a l'air qu'il aurait été impliqué dans une violente altercation dans un bar. Il fait face à 4 chefs d'accusation, dont assaut, et il pourrait faire face à 20 ans de prison.
C'est un incident qui serait survenu le 31 janvier, fait que c'est très récent, là.
Ben, c'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes. Puis si jamais on a plus d'infos là-dessus, bien évidemment, on va vous le dire, peut-être vous rappeler que dans la Ligue nationale de hockey, on est maintenant en gel pour la période olympique au niveau des transactions. Mais les Rangers ont liquidé, je pense pas qu'il y ait de meilleure expression, là, liquidé Artemi Panarin qui a pris le chemin de Los Angeles. Et ça a été confirmé aux environs de 15h cet après-midi. Avant d'oublier, je veux saluer quelqu'un. C'est un message qu'on a reçu un peu plus tôt cet après-midi. « Hey guys! » Je ne sais pas si vous pouvez prendre 30 secondes pour lire mon texte en onde pour souligner... non, on peut pas. C'est malheureux.
On va s'arrêter.
Voyons,
ici.
De quoi tu parles?
Ben, je fais une farce.
Ah ouais.
Ben voyons donc. Pour souligner mon ado de 12 ans, Chloé-Anne, qui s'entraîne depuis 3 semaines en patin pour le pentathlon de la semaine prochaine.
Nice.
Elle vient tout juste de sortir d'une heure et demie de pratique. Elle participe avec son école, mais sort les soirs aussi à la patinoire pour se pratiquer et s'améliorer. Elle s'implique avec tout son corps sur tellement de choses et continue de persévérer chaque jour. Je voulais prendre un moment pour lui dire que je suis fier d'elle et que je suis tellement contente et chanceuse d'être sa belle-maman. Continue comme ça, ma belle, je t'aime. Elle écoute la radio sur le chemin du retour. Fait que Chloé-Anne, t'as des gens qui t'aiment et qui sont fiers de toi. Puis on va se joindre à la fête pour te féliciter. C'est beau de voir des gens passionnés qui font des efforts. Puis ça m'ouvre une belle porte pour parler des gens qui présentement font des efforts pour sauver leur patinoire. Mmh. Il y en a de plus en plus, puis je trouve ça cute que des jeunes s'impliquent.
Il y a eu un prof du côté de la Haute-Saint-Charles qui est sorti en disant que ces jeunes avaient besoin de la patinoire.
Oui.
Il y a dans le secteur de Sillery, pas loin de l'école Montessori, où des enseignants puis de la population est en train de se mobiliser pour démontrer à quel point c'est important de conserver cette patinoire-là. Dans les deux cas, les patinoires qui font partie de la liste de 19 patinoires qui sont en examen, il y en a quelques-unes qui pourrait être fermé l'année prochaine, mais peut-être que l'année suivante, il y en a d'autres qui y passeraient.
Je sais qu'il y a des gens qui se préparent activement à Charlebourg à faire le même genre de choses. Il y a des choses qui me sont venues aux oreilles dans les dernières heures, entre autres pour la patinoire du Beau-Royal, qui font partie des patinoires de la liste des 19 qui pourraient disparaître dans les prochaines années. Puis, il y a des jeunes, des élèves de l'école Anne-Hébert qui ont lancé une pétition.
Ça, c'est en ville, hein?
Contre la fermeture de la patinoire du parc des Saints-Martyrs. Une patinoire qui est importante pour les jeunes. Elle nous permet de socialiser et de bouger. Cette patinoire est essentielle pour la vie de quartier et les jeunes se promènent avec leur pétition dans le secteur pour la faire signer. Et il y a le conseil d'établissement de l'école Anne-Hébert qui, justement, en a rajouté avec un communiqué pour dire que plusieurs enfants de l'école et moi vous demandons de prendre position pour que cette patinoire reste ouverte. Une pétition circule actuellement. On voudrait que vous écriviez une lettre au maire pour lui dire que cette patinoire est importante pour nous. Je pense que notre conseil d'établissement peut parler de ce sujet parce que nous sommes une école de quartier. Ce qui arrive dans notre quartier change la vie des enfants, leur bien-être et leurs activités. L'idée n'est pas de faire un concours de quelle patinoire est la plus importante. Mais là, présentement, je trouve tellement ça beau de voir de la mobilisation puis de voir que les gens tiennent à leurs infrastructures. Moi, je pense que le maire doit faire un statement rapidement.
Je dois dire que par tous les moyens possibles, la ville va trouver l'argent pour assurer la pérennité de ces patinoires-là. T'sais, dans le cas de la patinoire dont tu parles au Parc des Saints-Martyrs, la ville se plaint un peu que les citoyens commencent à délaisser le cœur. Puis là, on est vraiment dans le coin Belvédère, chemin Sainte-Foy, pour vous illustrer un petit peu. C'est un des rares coins où il y a encore beaucoup de familles en ville directement. Je peux pas croire que cette patinoire-là fasse partie de la liste. Pourquoi? Parce que pas loin, t'as les patinoires du Carré, pas loin, t'as les patinoires des Plaines d'Abraham. On s'entend-tu que c'est franchement pas la même dynamique que d'avoir ta patinoire de quartier qui te permet, après souper, de partir avec tes patins sur l'épaule puis de te rendre là pour une couple de minutes, une couple d'heures, là?
Moi, je pense que le plus beau statement qu'on peut faire dans une grande ville d'hiver comme Québec, c'est de pouvoir dire sur toutes les tribunes à Québec, tous les enfants peuvent se rendre à pied à une patinoire.
C'est-tu beau, ça?
Tous les enfants peuvent partir avec le patin sur l'épaule, le bâton dans les mains, puis ils peuvent se rendre à pied à une patinoire de quartier. Mmh. Puis on est fiers de ça. Si on est fiers du vélo à l'année à Québec, pour beaucoup moins de gens, je pense qu'on peut être fiers du sport qui fait partie de l'ADN du Québec et du Canada depuis que le sport en tant que tel existe. Puis c'est le fun, les patinoires réfrigérées. C'est super, les patinoires réfrigérées. Mais le deal, c'était pas qu'on fermait 5 patinoires extérieures à chaque fois qu'on en ouvrait une. C'était pas ça le deal.
C'est-tu moi où l'usage n'est pas le même? La patinoire de quartier versus la patinoire réfrigérée?
Bien, c'est parce que, premièrement, la patinoire de quartier, il n'y a pas d'horaire. Dans le sens où tu n'es pas obligé de réserver.
Tu vas sur le fly.
Il y a peut-être des heures qui sont réservées pour le hockey versus le patin, dépendamment des secteurs, puis ainsi de suite. Mais tu y vas sur le fly, puis c'est ça la beauté de la chose. Puis la beauté de la chose, c'est que la patinoire réfrigérée, ça devient une sortie événementielle. La patinoire de quartier, le kid se lève, prend ses bottines, prend sa tuque, puis il est parti. Chez nous, c'est ça, là. À 8 heures du matin, l'ado, il est parti. Des fois, il revient, il est 5 heures le soir. Une fois de temps en temps, il demande un livre pour un sandwich. Papa devient Uber Eats. Fais un sandwich. Je vais y mener. Tout va? Tu gèles pas? Tout est beau? Oh oui! Faut-moi pas gêner. Ciao, bye! OK, bye-bye.
Ton ado qui d'habitude aime bien plus être collé sur son cellulaire.
Mais oui!
Ça en dit beaucoup.
Mais oui! On fait la promotion de la vie active. Le maire fait la promotion de la vie active. Faut qu'il écoute ses citoyens, là. Ça pop de partout en même temps, là. Tout le monde veut sauver sa patinoire. Et avec raison. Lâchez pas. Bravo à tous ceux qui le font. Je trouve ça super beau, super noble. Vous devez être entendu et le maire doit vous adresser directement dans les prochains jours. Audrey, il y avait des problèmes de circul, hein?
Oui, bien, c'est encore quand même difficile sur la capitale, direction Est, entre autres, à la hauteur de Robert Bourassa. Si vous tentez d'aller chercher Laurentienne, direction Nord, vous êtes sur la capitale Est, là, dans la bretelle, pour aller chercher Laurentienne. Il y a quand même un bon ralentissement à prévoir en ce moment, assez inhabituel d'ailleurs. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre, je vous dirais, Wilfrid Amel et la capitale, ralentissement toujours présent. Dans le coin de Val-Bélair, Henri IV Nord, entre Sainte-Geneviève et l'avenue Industrielle, c'est encore des ralentissements. Également. L'entrée des ponts direction sud, difficile entre, je vous dirais, mettons que vous êtes sur Henri IV Sud, là, entre Versant Nord et les ponts du Plessis Sud, c'est entre chemin Sainte-Foy et le pont La Porte. Puis sur la 20, direction ouest, ça n'a pas bougé. C'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, 88-971-1021 texto.
Gravel, dans le retour.
Boulevard. Centre.
88-971-1021, 17h31. Hey, les journées s'allongent, c'est le fun. Tranquillement.
Noir, là.
Tranquillement. Oui, là, il fait noir. Mais il n'y a pas si longtemps, il était 16h30, on regardait dehors, c'était ça qu'on avait. Là.
C'est vrai.
J'essaie de voir désespérément le bon côté des choses. Hey, dans la presse aujourd'hui, je sais que c'est un dossier montréalais, mais ça va peut-être rebondir ici, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose. On sait que les prix pour les condos, les appartements, les maisons, ça n'a pas de bon sens. Ben à Montréal, on a peut-être pogné le top, là. On est peut-être en train de saturer un peu le marché, particulièrement dans ce qu'on va appeler les condos neufs dans la grande région de Montréal. Un condo neuf peut parfois coûter jusqu'à 30 % plus cher qu'un condo équivalent construit, pas il y a 20 ans, là, mais mettons il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Et ça décourage les acheteurs d'en acheter et les constructeurs d'en construire. Puis on prévoit qu'en 2026, le marché du condo neuf va être pas mal mort. Ça fait déjà plusieurs mois que les développeurs le soulèvent. C'est difficile pour le condo neuf d'être attrayant pour le portefeuille d'un acheteur potentiel. Ils sont rendus trop chers. Puis là, on a des chiffres. Le prix des condos neufs est de 15 à 30 % plus cher que ceux qui ont été bâtis entre 2015 et 2019 dans le Grand Montréal. Au centre-ville de Montréal, à Longueuil, à Brossard, le Creux est parfois encore plus grand. Le type d'habitation plaît, ça c'est unanime. De 2024 à 2025, les ventes de condos tout condo confondu, ont connu une hausse de 5 % au Québec. Presque partout, le marché favorise le vendeur, étant donné qu'il y a un manque d'offres. Et pour plusieurs premiers acheteurs, le condo reste une voie d'accès à la propriété. Mais le portrait est différent quand tu regardes juste les nouvelles constructions. Présentement, seulement le quart des condos neufs en pré-vente avaient été vendus au troisième trimestre de 2025 pour Montréal. On dit, ben là, on cherche à qui la faute? La hausse des coûts de construction des dernières années.
C'est sûr, mettons, tu construis la même affaire il y a 5 ans, puis maintenant, les coûts ont tellement explosé sur la main-d'œuvre, sur tout ce qui est les matériaux. Ça faut que ça apparaisse à un moment donné, là.
Il y a seulement 2500 copropriétés qui ont été mises en chantier en 2025 dans des secteurs comme Otterburn Park, Mirabel, Laval, Dolores-des-Ormeaux et Candiac. Il y a 10 ans, c'était 4 fois plus pour ces secteurs-là de Montréal. Est-ce qu'on va voir le même effet ici? Parce que du condo, il y en a poussé au pied carré aussi.
C'est beaucoup de condos locatifs à Québec. On dirait que le condo neuf, ça a un peu ralenti. Puis, tu sais, ça se peut que je me trompe. Là, ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous faire signe. Mais on est beaucoup dans le condo locatif haut de gamme. T'sais, il y a plusieurs gros projets qui ont explosé dans le secteur de Le Bourgneuf, dans le secteur de Vanier, dans le secteur de Sainte-Foy, en plus de ça. Pour l'instant, il semble y avoir une demande pour ça. C'est vraisemblablement des gens qui sont prêts à quitter leur maison, mais qui ne sont pas prêts à partir, mettons, en maison de retraite. Ils ont des moyens financiers de se payer ça. Mais reste que de la construction de condos neufs, il y a eu des gros, gros booms, mais là, on dirait que ça s'est stabilisé un peu.
Hey, on nous signale qu'un camion d'électricité immobilisé sur Robert Bourassa, direction nord, dans la voie du centre, entre Capitale et Père-Lelièvre. Merci à François qui vient de nous texter les informations. 17h34, parlant de condos. Je vais le faire comme faux, promis. Non, c'est parce que les filles m'ont fait sous-entendre que j'avais peut-être un bon point de fond plus tôt aujourd'hui, mais que...
Le véhicule était de la merde.
Mon dégoût du personnage aurait peut-être un peu teinté ma réflexion qui, à la base, semblait être bonne. C'est bien?
Oui. Tu crieras pas, tu te fâcheras pas, tu vas y aller de façon... Bon, ben vas-y.
Oui. Est-ce que... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Audrey, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'espère que l'opposition officielle à la Ville de Québec va s'assurer que l'administration Marchand ne fera pas de traitement de faveur à des personnalités publiques qui vont chialer sur leur compte de taxes à l'hôtel de ville. J'espère. Pour moi, c'est un dossier qui se vérifie.
Ouais.
Quand un propriétaire de condo neuf dans le Vieux-Québec qui sert de Airbnb.
Exactement, qui est donc une business.
Donc, qui est soumis aux mêmes réglementations que n'importe quoi d'autre au niveau des commerces et de l'hôtellerie. Quand un gars qui fait ça va se plaindre de son compte de taxes, j'espère qu'il n'y aura pas de traitement préférentiel parce que c'est une personnalité publique qui parle un petit peu plus fort que d'autres.
C'est très bien expliqué.
Puis j'espère que l'opposition... même si elle a des affinités avec la dite personnalité, va quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de traitement de faveur. Parce que moi, qu'on donne de facto une rencontre avec la conseillère municipale...
pour discuter de son cas particulier, alors qu'il y a des citoyens bien ordinaires qui ont de la misère à faire changer des limites de vitesse dans leur quartier...
puis être considéré.
Moi, ça me met un peu...
Je trouve que ça lance un drôle de message. Puis moi, ça me rend mal à l'aise.
C'est inéquitable.
Oui, puis par souci d'équité, je m'attends à ce que l'opposition officielle fasse des vérifications à ce sujet-là. Es-tu correct?
Très bien fait.
T'as très bien dit.
Il me semble que j'ai d'autres choses à dire.
Non, mais c'est ça.
Gâche pas ce que tu viens d'élaborer.
C'était correct.
Ça serait l'équivalent de mettre du fromage de chèvre dans ton potage qui est réussi. Mais là, ton potage est parfait.
Ce serait l'équivalent de...
Venir à terre.
Venir à terre, ouais, c'est ça.
Voilà.
Expression qui...
Ça colle.
Oui, ça colle à terre. On me dit que de plus en plus de gens l'utilisent depuis 1 heure à peu près.
Seigneur.
Ouais. On revient. Gravel. Hey, 17h42, étant donné qu'il a fini sa job de jour, il va être assez gentil pour... nous donner des précisions peut-être sur deux dossiers de sport qui ont rebondi dans les dernières heures. Vous rappelez que le Canadien dispute son dernier match avant la pause olympique ce soir face aux Jets de Winnipeg. C'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet. Salutations, Gab Marino.
Salutations.
Ça va bien?
Yes.
On va aller dans la circulation juste avant, Audrey.
Capitale direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Ralentissement qui est toujours en place. Robert Bourassa, direction nord, c'est entre Charest et la capitale. L'entrée des ponts, direction sud, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV, là, à partir de chemin Sainte-Foy, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la 20, direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata encore au moment où on se parle. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102, un texto.
Celui qui est considéré comme le premier espoir du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey est dans le trouble et va peut-être faire de la prison, gars.
Oui, il fait face à 20 ans de prison pour les 4 chefs d'accusation qui sont accolés à son nom. Des événements qui sont survenus samedi 31 janvier en soirée. Et on dit accusation, agression, là je le traduis, là, agression aggravée, tentative de lésion corporelle grave, lésion causée avec une indifférence extrême. Puis si on traduit un peu ça, parce que selon les récits différents de l'événement, c'est qu'il a pété une mâchoire finalement.
Dans un bar, c'est ça?
À la sortie d'un bar. Oh. Ça aussi, c'est un aspect, il y a beaucoup de choses dans ce ouais. dossier-là. Parce
ça se déroule où, hein? On parle de Gavin McKenna en passant. Là.
Penn State,
oui.
parce
que...
En Pennsylvanie.
En fin de semaine, il y avait ce grand match extérieur, oui, des Bruins, Denis, mais aussi du hockey universitaire, où Penn State donc jouait dehors devant 70 000 personnes. Et à ce qu'on en comprend, c'est qu'après cette grande journée de hockey, où lui-même a brillé avec un but, deux passes, puis une victoire de son équipe, bien plus tard, avec l'équipe, ils sont sortis au bar. Là, c'est bizarre parce qu'il y a 17 ans.
On me dit que ça peut arriver.
Non, il y a 20. Y a-tu 17 ans?
Il y a maximum 18 si sa fête est passée depuis les dernières semaines, parce qu'il est éligible au prochain repêchage.
Il y a 18 ans. Il y a eu 18 ans au mois de décembre.
Bon, mais ça serait pas. C'est pas légal aux États-Unis quand même.
C'est pas légal en Pennsylvanie, c'est 21 ans l'âge pour boire.
Et donc, ça, c'est déjà un aspect bizarre. Mais comme tu dis, Denis, qu'on peut comprendre à la limite. Mais à la sortie du bar, donc, 10h30, altercation et. S'ensuit donc une personne, pas nommée d'ailleurs, qui aurait été victime d'un coup de poing de Gavin McKenna dans cette histoire-là,
ouais.
qui maintenant, évidemment, nuit à son dossier criminel, risque de faire de la prison. Je pense pas que ça va se terminer en 20 ans de prison. Là. D'habitude, c'est pas nécessairement comme ça que ça se termine, mais...
Mais est-ce que c'est des procédures qui vont être terminées avant le repêchage en tant que tel? Puis est-ce que ça peut...
Non.
Non?
Non. C'est pas se poser. Je pense juste à un autre événement là, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt par rapport à des accusations comme celle-là. C'était Morgan Wallen qui a lancé une chaise à Nashville.
Ben oui.
Et ça s'était finalement débouché sur rien. Là. Les accusations avaient finalement été laissées tomber, puis il y avait comme une tape ses doigts.
Il n'avait pas fracturé la mâchoire de quelqu'un.
La chaise n'a pas porté plainte.
La chaise n'avait pas tombé sur personne, mais c'était quand même grave. Et ça a pris comme un an et demi avant que ça se règle. Fait que non, ça sera pas réglé avant le repêchage. Fait que pour la réputation du joueur, pour les apparences, ça nuit beaucoup. Là.
C'est sûr.
Non, c'est vraiment...
Les risques d'être suspendu par son équipe aussi. Tu sais, souvent,
ben,
tu vas...
Oui.
Tu sais, c'est le fils de, mon Dieu, Daniel Brière.
Oui.
Qui avait poussé une chaise roulante dans un escalier dans un bar. Ouais. Vous vous souvenez, lui est un joueur de niveau universitaire, puis son équipe avait choisi... De le suspendre. Puis là, on parle pas de voix de fait sur quelqu'un. Mm-hmm. Fait que j'ai le feeling que pour Gavin McKenna, ça va être une période qui va être assez difficile.
Oui,
là.
Tout à fait. Ça va être à surveiller dans les prochains jours. Ça va faire jaser pas mal à soir et les prochains mois, finalement. Ouais. Parce que déjà, il y avait des doutes sur le fait qu'il serait premier choix total au repêchage.
C'est pour des histoires de comportement ou...
Non, c'était il a toujours eu une bonne confiance, ce qui est peut-être un avantage ou un désavantage, dépendamment à qui tu demandes.
Dépendamment du volume.
il dominait dans la WHL. Il a décidé d'aller à l'universitaire pour se challenger et a frappé un mur un peu en début de saison. Là, a pas connu le même succès qu'au niveau junior canadien. Peut-être parce que c'est des joueurs plus vieux aussi. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte. Mais je pense que le deuxième meilleur de son repêchage est assez près de lui. Là. On l'a constaté au championnat du monde junior.
Vu que tu es avec nous autres, Gab, peut-être revenir sur l'échange de Artemi Panarin.
Oui.
Tout le monde s'attendait à un méga échange et finalement, c'est juste un échange.
Ben, c'est que ça arrive avec des situations contractuelles comme celle-là parce que Panarin n'a pas de contrat à la fin de la saison et a aussi une grosse clause de non-échange. Fait que finalement, il choisissait sa destination. Puis là, les Kings obtiennent un joueur qui sont pas certain de garder rendu le 1er juillet. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné beaucoup. Choix de troisième ronde et Liam Greentree, parce que tu ne peux pas prendre ce risque-là. Et il y avait deux options. C'était soit un échange comme celui qu'on a vu ou un échange sign and trade, qui appelle. Donc, tu as déjà une entente avec une certaine équipe qui va pouvoir le signer avant même que l'échange, ou à peu près en même temps, tu sais, c'est des technicalités. Comme ça, à ce moment-là, tu peux aller chercher un plus gros retour parce que l'équipe qui va l'échanger, elle sait qu'elle garde le 1er juillet. Mm-hmm. Ben, c'est pas cette option-là. Donc, les Rangers n'ont pas obtenu un gros retour. Et moi, je pense que c'est pas un bon début de reconstruction.
Et surtout que les Rangers, c'est pas la première fois qu'ils font ça, se sont hâtés publiquement encore en s'adressant aux fans puis en disant « On va reconstruire, puis vous allez voir dans les prochaines semaines, on va faire des gestes concrets, puis vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va. » Moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux depuis le début de l'après-midi, non, là, non. C'est que les fans des Rangers, ils trippent pas là, sur ce qui s'est passé.
C'est un couteau à deux tranchants, hein, parce que c'est le fun d'être transparent avec les fans. Parce que tu veux pas. Tu sais, le Canadien a tout le temps fait ça. On n'est pas en reconstruction, retool, là, pendant des années. Il n'était pas très honnête.
Puis on aurait aimé ça qu'il l'adresse.
Ben oui. Mais là, tu vois, les Rangers le font. Puis après ça, ils se font avoir dans le détour parce que Panarin ne vaut plus rien. Ça paraît pas bien, en tout cas.
C'est un peu comme, je sais pas, moi, une mairesse de Montréal qui fait deux flats, qui le filme sur TikTok, puis qui dit qu'il va régler le problème des trous à Montréal. Sur le coup, ça paraît bien. Mais si dans un an, il y a encore plein de trous, ça ira pas mieux. Hey, merci, Gab.
Merci à vous.
Notre ami Gab Marino, que vous pouvez entendre dans les tops de sport du lundi et du vendredi, et chez nos collègues de week-end de tous les après-midi dans les retours, 17h48.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming, voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Dans l'histoire du rock, ils sont considérés comme les inventeurs de la musique métal. Un 4 février 2017, ils terminaient leur dernier concert à la suite de leur dernière tournée. Un concert de 2 heures du côté du NEC Arena dans leur ville natale de Birmingham, en Angleterre. 15 tunes et on a terminé le tout avec Paranoid. Ozzy Osbourne, à l'époque âgé de 68 ans, avait remercié les fans pour 5 décennies de support continu. C'était une tournée qui s'était arrêtée dans 81 villes du monde. Le The End Tour. Ça parlait de soi-même. Changeons violemment de style musical. Un 4 février 1984, Culture Club se retrouve au sommet des palmarès américains pour une run de 3 semaines au numéro 1 avec Karma Chameleon. C'était déjà leur 5e top 10 américain. C'est peut-être moins violent, mais on va encore changer de style, pas pire. Un 4 février 1978, les Bee Gees commencent une run de 4 semaines au numéro 1 du Billboard avec Stayin' Alive de la trame sonore du film Saturday Night Fever. Un an avant les Bee Gees, un 4 février 1977, la formation Fleetwood Mac sort un des albums les plus influents et les plus importants de la décennie 70, l'album Rumours. Un album qui remporte le Grammy Award de l'album de l'année en 1978, un album qui a vendu 45 millions d'exemplaires, ce qui en fait un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique. Parlant de musique importante dans l'histoire du rock, un 4 février 1972, c'est les dernières sessions d'enregistrement au Trident Studios de Londres en Angleterre d'un certain David Bowie qui complète un album qui allait devenir légendaire. Cette journée-là, un 4 février 1972, il enregistre Rock'n'Roll Suicide, Starman et Suffragette City, les dernières chansons enregistrées pour l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. À cette heure-là. Un 4 février 1966, Bob Dylan and the Band jouent leur premier concert électrique. Après avoir annoncé une transition très mal reçue dans le monde du folk, après une performance presque catastrophique au Newport Folk Festival, des événements très bien racontés dans le film A Complete Unknown.
Bob Dylan, un vrai punk.
Ah, oui.
Vrai de vrai,
ah,
dans, oui, l'attitude.
Le film est sur Crave, hein?
Il est sur Disney de mémoire.
Peut-être vérifié, mais c'est un film extraordinaire. C'est Timothy
Chalamet
qui, joue Bob Dylan, plus vrai que nature.
Il est sur Disney et sur Crave.
Bon, ben tabarnouche. Pour vrai, si vous ne l'avez pas vu, moi je ris de Bob Dylan depuis que je sais que Bob Dylan existe.
Puis maintenant. Hein?
Et depuis ce Christie de film-là, j'écoute du Bob Dylan comme quand j'ai commencé à triper sur Neil Young, sur Johnny Cash. Ça m'a raconté un volet historique de la musique que je connaissais mal.
Et encore une fois, Timothée Chalamet est un gars qui ne tombe pas dans la caricature de Bob Dylan, alors que ce serait facile de caricaturer l'individu.
Hein? Tu trouves?
Tu trouves pas qu'il... Moi, je le trouve parfait.
Quand il chante,
oui,
tu penses qu'il,
tu
penses qu'il est dur à caricaturer. C'est probablement le plus facile à caricaturer.
Exactement.
De la gang. Hey, c'est l'anniversaire d'un vrai. On peut le qualifier d'increvable. La fête à Alice Cooper.
Joueur de golf.
Ben
mérite.
Oui, joueur de golf émérite. Coupeur de tête en rubber sur scène. Alice Cooper qui a eu deux grosses périodes de succès. Le début des années 70, alors que Alice Cooper était un groupe. L'époque de School's Out. Et la renaissance dans les années 80 grâce au réseau MTV et l'album Trash où on retrouvait la pièce Poison. Ça, c'est School's Out. Avant, c'était Poison. C'était à l'envers. C'est comme la qualité de l'air. Tu peux le prendre par le bout que tu veux.
J'ai beaucoup aimé le voir en show à Alice Cooper.
Je l'ai vu en show au Heavy Montreal. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi. Et on me dit que le dernier album où il a retrouvé le groupe Alice Cooper est excellent. Il y a quel âge, Alice Cooper? Je vous l'étudie.
Non.
Il y a quel âge, d'après vous autres?
Es-tu rendu à 80?
78.
Mais il est pas loin, là.
78. Je pense qu'à Québec, on a un soft spot pour les vieux métalleux qui se sont remis à jour dans les années 80. Hein?
Ah, absolument.
Le son d'Ozzy Osbourne, le son d'Alice Cooper, juste un petit peu de clavier dans le fond qui dérange pas trop, de la grosse production.
Et puis toi, tu
vis
ta best life, là.
Ben oui. Restes-tu des problèmes sur les routes, Audrey?
Un petit peu encore. Quelques ralentissements si vous êtes sur la capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, mais il faut le dire vite. Robert Bourassa, direction Nord, hauteur Wilfrid Hamel. Puis l'entrée des ponts, si vous êtes sur Henri IV, là, direction Sud, je vous dirais qu'à partir de chemin Sainte-Foy, ça ralentit jusqu'au pont Pierre-Laporte. Pour le reste, ça roule.
Véro? Peut-être vous résumer très rapidement la présentation de l'expert en environnement que Respect citoyen avait à présenter aujourd'hui avec son rapport. En gros, la ville a passé de capteurs pour que ce soit vraiment précis quand ils font des interdictions de feu. Donc, il faudrait investir 650 000 $ pour être plus précis. Je vous rappelle qu'il y a 30 000 propriétaires de foyers dans la région de Québec.
Et que fondamentalement, on ne semble pas en désaccord sur l'interdiction qui s'en vient pour les feux de foyer à Québec du côté de l'opposition.
On est en désaccord avec les amendes.
Oui. Mais là, on n'en donne pas, on donne des avertissements.
Tant que ça reste dans l'avertissement, respect citoyen est à l'aise avec la situation.
C'est beaucoup, beaucoup de salive. Je comprends que, tu sais, on est sur le troisième lien depuis 15 ans, on est sur le tramway depuis les années 40 à peu près.
C'est
là,
comme
mais...
un petit nouveau. Là.
Ouais, c'est un petit nouveau. Là,
on
mais
s'est tanné vite.
On l'a brûlé vite, oui, ouais, effectivement. Hein? Moi, je suis game qu'on n'en reparle plus jamais de la qualité de l'air
mais
à Québec.
C'est fou parce que Stéphane Lachance a réussi quand même à attirer notre attention sur le fait qu'on avait hâte de voir que c'est
oui.
qu'il allait nous présenter
si on allait avancer ou quoi que ce soit.
On reste un petit peu sur notre appétit. Ouais. Hey, on a moins 6 degrés à Québec. Quelques nuages qui sont prévus pour ce soir et cette nuit. Faible neige intermittente en cours de nuit. Des rafales de vent toujours à 40 km/h avec un minimum de moins 12 degrés. Demain, jeudi, ça se dégage en matinée. Puis pour la suite des choses, vous dire que le maximum est à moins 9. Refroidissement éolien, moins 18 le matin, moins 12 en après-midi. Quand même mieux que ce qu'on a eu depuis le début de l'année. Vendredi, alternance soleil-nuage, maximum de moins 10. On prévoit de la neige. Samedi, maximum de moins 14. Et dimanche, ben, il va faire frette. Maximum de moins 16 avec du soleil mur à mur. Vous n'aurez pas de misère à vendre le Super Bowl à vos copains.
Je te rappelle que j'ai fait mon sondage maison plutôt sur le texto. Les gens préfèrent le frette plutôt que de pelleter de la neige.
Oui. Mais je pense que fondamentalement, on serait tout mieux en bédaine en train de griller.
Ah ben là, c'est
c'était
sûr,
pas
là.
Des choix de réponse.
Ah bon,
Denis,
d'accord.
Tu ralentis le groupe.
Toujours. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Marceau s'en vient prendre soin de vous autres. Demain, 7:55 dans le Pit Stop et à 14h avec les demoiselles.
Ciao, ciao, Mickey Mouse!